Voilà, bonjour à chacun. Même si nous n'avons sans doute jamais été confrontés à la faim et à la soif dans la mesure d'une situation de famine, ou alors de celle d'une traversée d'un désert sans eau, nous savons tous néanmoins ce qu'est la faim et la soif pour l'avoir déjà expérimenté. Que faisons-nous quand nous avons faim? Que faisons-nous quand nous avons soif? Nous cherchons à manger. Nous cherchons à boire. Et cette recherche devient une priorité parce qu'elle est vitale. C'est même ultimement une question de vie ou de mort. Dans notre série sur les béatitudes de Jésus qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, nous arrivons ce matin à la quatrième béatitude où Jésus déclare heureux celles et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, dit-il. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif de la justice? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif de la justice? Est-ce que cette recherche est une priorité dans ma vie, dans votre vie? Cette dernière question n'est pas là par hasard. Je l'ai mise là parce qu'elle fait écho à une autre parole de Jésus sur la justice. En effet, un petit peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, dans ce même sermon sur la montagne, Jésus dit, en parlant des besoins vitaux de notre vie, ces besoins vitaux que nous recherchons tous, voilà ce qu'il dit. Il dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car cela ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » La recherche de la justice est donc une caractéristique de la vie du disciple de Jésus, de la vie du membre du royaume, de son royaume. Et cette recherche doit être prioritaire pour lui ou pour elle. Mais de quelle justice parlons-nous? Comment bien comprendre cette quatrième béatitude? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et puis, qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire? Et puis, quel est le rassasiement dont parle Jésus ici? Voilà quelques-unes des questions qu'il nous faut maintenant aborder dans notre deuxième grand point. Et nous commençons par souligner la progression logique que l'on peut discerner dans les quatre premières béatitudes. Il y a dans l'ordre les pauvres en esprit, puis ceux qui pleurent, puis ceux qui sont doux, et puis ceux qui ont faim et soif de la justice. La première béatitude correspond à la première étape pour entrer dans le royaume des cieux, qui consiste à reconnaître sa misère spirituelle, qui consiste à reconnaître son besoin de Dieu, l'absence totale de mérite à faire valoir devant Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Cette première étape va conduire logiquement à la seconde, qui consiste à se repentir de ses péchés, à pleurer sur son péché. En effet, pour pouvoir pleurer sur son péché, il faut tout d'abord se reconnaître pécheur, Il faut être pauvre en esprit. Et c'est ainsi que Jésus dit ensuite, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Après s'être ainsi humilié devant Dieu et avoir été consolé par le Seigneur en étant au bénéfice de sa grâce qui toujours accueille le pécheur repentant, l'état d'esprit du disciple doit être celui de la douceur. La douceur que l'Esprit Saint produit en lui. Une douceur qui fait ensuite dire à Jésus, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » La terre qui, ici-bas, vous le savez comme moi, est pour l'heure l'héritage des forts et des puissants. Enfin, cette douceur qui consiste à faire confiance à Dieu, à s'en remettre à lui, et à s'en remettre à lui en particulier face à l'injustice, cette douceur amène à désirer profondément ce qui est juste, à désirer profondément la justice de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus affirme dans notre quatrième béatitude, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Oui, il y a bel et bien une progression logique dans les quatre premières béatitudes de Jésus, ce qui nous amène à dire que la faim et la soif de la justice dont nous sommes en train de parler ne peut exister que dans la vie du disciple de Jésus, ne peut exister que sur le terreau des trois premières béatitudes. Il est temps maintenant de préciser de quelle justice nous parlons. La justice dont il est question dans notre béatitude a été comprise au fil des siècles de deux grandes manières, soit comme l'aspiration à un monde plus juste, soit comme le désir de vivre la vie juste, à laquelle Dieu m'appelle dans sa parole. Avant de trancher, il convient de préciser les différents aspects de la justice en général et dans la Bible en particulier. Et il y a premièrement ce qu'on appelle la justice légale. C'est simplement le respect des lois qui ont été instaurées par le pouvoir public, le pouvoir civil. Notons que paradoxalement, cette justice n'est pas toujours juste, puisqu'elle n'est que le respect des lois qui elles-mêmes parfois ne sont pas très justes. Il semble évident que ce n'est pas de cette justice-là dont parle Jésus dans notre béatitude. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler la justice spirituelle, qui est dans la Bible la justice qui s'obtient par la foi. On parle dans la Bible de justification par la foi, qui est une déclaration que Dieu fait, que Dieu prononce sur la base de la foi du croyant. Dieu qui déclare juste le pécheur qui se repent et qui s'en remet à sa grâce. Et il le fait sur les mérites acquis par Jésus-Christ à la croix. Et cette justice correspond donc au rétablissement de la relation entre l'homme pécheur et le Dieu juste. Et elle découle de notre position par la foi en Jésus-Christ. Notons qu'il ne peut pas s'agir de cette justice ici, puisque Jésus s'adresse à ses disciples, qui sont donc déjà justifiés par la foi. Mais s'il ne s'agit pas de cette justice, celle-ci est cependant nécessairement comprise dans la justice dont Jésus parle dans notre béatitude, et qui est la suivante sur la liste. Il s'agit de la justice morale, c'est-à-dire la conduite d'une personne qui manifeste la volonté de Dieu. En effet, quand je fais la volonté de Dieu, qui seul est pleinement juste, alors je fais ce qui est juste. Alors j'agis selon la justice. C'est de cette justice-là, à mon sens, dont il est question dans notre béatitude. Et elle concerne non seulement nos actes, mais aussi nos pensées, nos désirs, nos paroles. Et c'est pour cela que la Bible en français courant traduit notre béatitude ainsi, « Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande. » Avoir faim et soif de la justice, vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Enfin, il y a une autre justice, c'est la justice sociale, qui est la justice qui s'exprime dans les relations humaines. Cette justice va toucher à toutes sortes de domaines, la libération de l'oppression, la défense des droits de l'homme, l'intégrité dans les affaires, le respect de la propriété d'autrui, et j'en passe. Mais ce n'est pas de cette justice dont il est premièrement question dans notre béatitude. Ceci dit, elle est englobée. La justice sociale est englobée dans ce que Jésus entend, parce que la justice morale a forcément des prolongements dans la justice sociale. Le chrétien est appelé à avoir faim et soif de justice, pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres, pour la société dans laquelle il vit, ça fait partie. Si je manifeste la volonté de Dieu dans ma vie, cela va nécessairement se traduire dans mes relations avec les autres, et donc dans la justice sociale. Alors, il faut noter à ce stade un détail textuel important. En effet, dans notre béatitude en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot « justice » est précédé d'un article défini. Ainsi, il est question de la justice, et pas seulement de justice. Alors, ça peut paraître anodin. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que Jésus a certainement voulu faire comprendre, c'est qu'il ne parlait pas de n'importe quelle justice, il parlait de la justice, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, celle que seul Dieu peut donner parce qu'il est le Dieu juste, parce qu'il la possède entièrement en lui-même. La justice est la qualité morale et spirituelle de Dieu seul. Alors voilà, après avoir posé tous ces éléments, nous sommes maintenant en mesure de proposer une compréhension de la première partie de notre béatitude. Que veut dire avoir faim et soif de la justice ? Avoir faim et soif de la justice pour le disciple de Jésus, c'est désirer, je pourrais même dire, c'est désirer ardemment, parce que c'est vital pour lui, c'est désirer ardemment vivre la vie juste à laquelle Dieu nous appelle, à laquelle Dieu nous invite, nous exhorte dans sa parole. C'est désirer promptement vivre selon ce qui est juste aux yeux du Dieu juste. On peut noter ici que, dans le texte, c'est un participe présent qui est utilisé. Et qu'est-ce que ça signifie ? Désolé, il y a un tout petit peu de grammaire, hein, mais on peut difficilement en faire l'économie. Ça veut simplement dire que la recherche dont il est question ici doit être continuelle. Nous devons régulièrement avoir faim et soif de la justice. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois par mois ou une fois par an. Ça doit faire partie de notre vie. On pourrait même dire que c'est un programme de vie pour nous, pour le disciple de Jésus, pas juste une idée en passant, mais un programme établi par le Seigneur lui-même, pour nous. Désirer continuellement vivre ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est finalement désirer avant tout être libéré du pouvoir du péché et de toutes ses manifestations. C'est désirer être libéré de la tyrannie du mal et de son emprise. C'est désirer la sainteté, comme le souligne l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, versets 14 à 16, quand il dit « comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. » Et oui, avant de connaître le Seigneur, on en était tous là. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Cette faim et cette soif de la justice est donc pour le disciple synonyme de sanctification. Dit autrement, avoir faim et soif de la justice, c'est tout simplement désirer ressembler à Jésus-Christ, pour le mettre dans des termes plus simples. C'est désirer qu'il grandisse en nous. C'est désirer que notre vie soit toujours plus conforme à la sienne. Et c'est cette ressemblance qui est finalement l'objectif de notre béatitude, qui est visée par la recherche de la justice. Lui qui a la perfection est celui qui a faim et soif de la justice. Mais ce n'est pas tout. Comme nous l'avons déjà évoqué, ce désir de la justice ne doit pas être que pour soi. Il doit s'étendre à celles et ceux qui nous entourent, à la société, au monde. La justice morale que nous devons rechercher pour nous-mêmes, nous l'avons dit, doit avoir des prolongements concrets, agissant dans la justice sociale. Ainsi, avoir faim et soif de la justice, c'est désirer la manifestation pleine et entière de la justice de Dieu sur notre terre. Un désir qui doit nous pousser à agir pour le bien de notre prochain. Mais il faut le dire ici sans ambiguïté, ce désir ici-bas sera toujours frustré. Il sera toujours contrarié. Et on pourrait même dire qu'il sera toujours contrecarré. Par quoi ? Par qui ? Premièrement, par notre propre péché, notre égoïsme. Eh oui, là, on dit de belles choses, hein, mais après, on pense un peu à nous de temps en temps. Par notre indifférence, et puis par le péché des autres. Et puis par tout ce qui est, par tout ce qui reste injuste dans le monde dans lequel nous vivons, parce que celui-ci est encore sous l'emprise du mal et du malin. Ceci dit, cette frustration inévitable pour l'heure ne doit pas nous faire baisser les bras. Et nous devons, à notre niveau, par aide et espoir, par exemple, par la collecte pour les étudiants qu'on est en train de faire actuellement, par le Noël du cœur qui aura lieu dans un mois, par des parrainages, par des dons à des associations, par toutes sortes d'actions individuelles que vous faites certainement, faire tout notre possible sans tomber dans le piège d'imaginer que nous allons faire venir le royaume de Dieu dans sa plénitude de cette manière-là, non. Mais faire tout notre possible pour que ce monde soit un endroit meilleur, un endroit plus juste pour y vivre. Et on pourrait citer ici, c'était la tentation hein, de vous faire la liste, mais on aurait pu citer ici toutes sortes d'exemples, plus illustres les uns que les autres, comme Martin Luther King, etc., mais qui nous aurait peut-être fait perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire le fait que l'essentiel se fait anonymement dans ce domaine, se fait petitement, jour après jour, par des hommes et des femmes de bonne volonté qui agissent autour d'elles et autour d'eux pour rendre ce monde meilleur. Alors oui, parfois il y a des actions d'éclat, et c'est bien aussi, elles sont importantes. Mais c'est aussi et surtout la somme de toutes ces petites fidélités au quotidien qui font aussi bouger les choses. Une dernière chose avant de passer au rassasiement qui est promis. Dans le prolongement de ce désir de justice pour notre monde, avoir faim et soif de la justice, c'est aussi désirer le moment où Dieu établira sa justice à jamais. Nous allons en parler. Le jour où le mal et l'injustice que nous constatons tout autour de nous, parfois même en nous, le jour où le mal et l'injustice seront éradiqués à jamais, le jour où Dieu fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, nous connaissons cette parole qui se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, où la justice habitera. Où la justice habitera. Cette attente qui est notre espérance est finalement l'attente du jour où s'accomplira cette parole que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, dernier livre de la Bible, versets 16 et 17, où il est écrit « Ils n'auront plus faim ». Il est question ici du peuple de Dieu. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif ». C'est l'image, bien sûr, hein, de ce rassasiement. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger et les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ce dernier verset nous parle du rassasiement définitif, et cela nous amène à considérer maintenant cette dernière partie de notre béatitude, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, dit Jésus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est quoi ce rassasiement dont parle Jésus? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour après? Est-ce que c'est pour les deux? Le rassasiement qui est promis dans notre béatitude est bien évidemment promis à ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça, c'est le cadre. On peut, alors c'est la, promis, c'est la dernière fois, mais on peut encore ici dire quelque chose à partir de la grammaire, puisque le verbe est au passé, est à la forme passive, est à la forme passive, ce qui souligne que le rassasiement qui est promis ne vient pas de nous. La tentation pourrait exister, hein, de se rassasier soi-même ou de trouver des moyens d'être rassasié. Ce n'est pas nous qui nous rassasions, mais c'est Dieu qui le fait, même s'il n'est pas nommé dans cette béatitude. C'est Dieu et Dieu seul qui peut nous rassasier de sa justice, la sienne, la vraie justice. Et nous devons faire attention ici à ne pas nous satisfaire d'ersatz, de substituts en tout genre. Dans le domaine de la justice, de ce qui est juste, c'est uniquement Dieu qui peut nous rassasier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver certaines satisfactions, mais le rassasiement vient de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous rassasier et nous désaltérer durablement. Parfaitement et même éternellement. Les désaltérations et les rassasiements humains ne sont jamais pleinement satisfaisants. On l'a tous expérimenté. Ils sont toujours partiels, temporaires et remis en cause par le temps qui passe. Et ils font penser à cette expression qu'on trouve dans le prophète Jérémie, qui compare le remplacement de Dieu qui est la source d'eau vive, hein, cette image par excellence qu'on retrouve souvent dans la Bible. Donc, le prophète Jérémie parle de ce remplacement de Dieu, la source d'eau vive, par d'autres choses comme le creusement d'une citerne qui est crevassée, dit-il. Une citerne fissurée qui ne va pas retenir l'eau, et qui donc ne va pas pouvoir désaltérer. Voilà ce que dit Jérémie, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Voilà les citernes que nous sommes en capacité de creuser, des citernes crevassées. Oui, les rassasiements humains sont comme ces citernes crevassées. Ils abreuvent pour un temps, peut-être, mais seul Dieu désaltère vraiment. Il calme temporairement la faim, mais seul Dieu rassasie pleinement. Alors bien sûr, pour l'heure, le rassasiement de Dieu, nous le constatons dans nos vies, semble lui aussi partiel, incomplet, temporaire. Mais si nous connaissons l'Écriture, nous savons que Dieu a fait des promesses, qu'il en a fait à ce sujet en particulier, et qu'il y a un rassasiement parfait qui est à venir. Alors nous l'avons déjà vu dans ce texte de l'Apocalypse, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et tout cela, tout ce qui est dit là dans ce verset de l'Apocalypse se produira bien sûr après le retour de Jésus, dans la nouvelle création, ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est parce que tout sera juste que nous serons rassasiés parfaitement. Nous connaissons ce texte de 2 Pierre 3, verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse ». De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, un jour dans la gloire, dans la présence de Dieu, quand le Christ sera revenu pour établir définitivement son royaume. Nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous serons pleinement rassasiés et pleinement désaltérés de justice, parce que nous serons dans la présence glorieuse du Dieu qui est juste. Parce que nous serons dans la nouvelle création qui aura été purifiée du mal et du péché et où la justice de Dieu régnera parfaitement et pour toujours. Oui, au jour du jugement dernier, le mal sera vaincu, l'injustice disparaîtra et la justice de Dieu triomphera éternellement. Chers amis, ces choses sont une certitude par la foi, parce que le Dieu qui est juste est aussi le Dieu qui est vrai. Sa parole est la vérité, et ce qu'il promet s'accomplit toujours. Notre faim et notre soif de la justice seront rassasiés. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. Question qui reste à la fin de ce message est celle-ci. Ai-je faim? Ai-je soif de la justice, de ce qui est juste dans ma vie? Avez-vous faim? Avez-vous soif de la justice de Dieu? Avons-nous soif de Dieu? Avons-nous soif du Christ? Avons-nous soif de sa parole? Est-ce que ce qui est juste aux yeux de Dieu fait partie des choses que je désire pour ma vie de tous les jours? Écoutons comme une exhortation dans ce sens quelques textes de l'Écriture, en commençant par deux textes bien connus des psaumes qui vont dans ce même sens. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Toujours comme une exhortation à la faim et à la soif de Dieu et à la faim et à la soif de sa justice, écoutons ce que Jésus lui-même dira quelque temps plus tard à la Samaritaine, à la femme samaritaine, venue puiser de l'eau au puits, nous connaissons l'histoire. Jésus lui répondit donc à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau, l'eau qu'on peut puiser dans le puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Quelle promesse merveilleuse! Une promesse qu'on va retrouver à la fin de la Bible, dans ce dernier livre de l'Apocalypse. Chapitre 21, nous lisons « Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et puis dans le tout dernier chapitre, quasiment dans le dernier verset, chapitre 22, 16 et 17, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il y a notre aspiration et il y a les promesses de Dieu. Promesses de rassasiement partiel ici-bas, mais parfait dans l'éternité. Oui, souvenons-nous, en faisant écho à d'autres paroles de Jésus, que celui qui cherche trouvera. C'est Jésus qui le dit, en parlant des choses de Dieu, que Dieu ouvrira à celui qui frappe et que Dieu donnera à celui qui demande. Oui, Dieu rassasiera celle ou celui qui a faim et soif de sa justice. Par contre, si je ne demande pas, je ne recevrai pas, c'est une évidence de le dire. Si je n'ai pas faim et soif de la justice, je ne serai pas rassasié. Peut-être en vous n'y a-t-il plus beaucoup de faim et de soif de ce qui est juste aux yeux de Dieu ? Pas plus ou plus beaucoup de faim et de soif des choses d'en haut, pour reprendre cette expression de Paul aux Colossiens. Pas peu ou plus beaucoup de faim et de soif des choses de l'esprit, pour reprendre l'expression de Paul aux Romains. Pas plus ou plus beaucoup de faim et de soif de la parole de Dieu. Alors pourquoi ne pas demander ces choses à Dieu ? Lui demander de les mettre en vous, de les renouveler en vous, de vous donner, de me donner le vouloir et le faire dans ce domaine. Pourquoi ne pas adresser cette prière à Dieu, peut-être même maintenant ? Une prière que Dieu exaucera si elle est sincère, parce que son désir est que nous marchions sur les sentiers de la justice, à cause de son nom, et dans lesquels il veut nous conduire. Le psaume 23 a déjà été cité ce matin par Marc. Oui, l'Éternel, mon berger, me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Finalement, avoir faim et soif de la justice qui sera pleinement manifestée lors du retour de Jésus, quand il établira son règne de justice, revient à faire une autre prière de Jésus, et je termine avec ça. Une prière que nous connaissons tous, j'en suis persuadé. Il s'agit de la prière du Notre Père. Et que dit Jésus dans cette prière ? Il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Avoir faim et soif de la justice de Dieu, c'est demander que le règne juste de Dieu vienne, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, que vienne le règne de justice lors de l'accomplissement de toutes choses. Que vienne le Christ que nous attendons. Maranatha. Le Seigneur vient. C'est la traduction. Oui, viens Seigneur. Viens et là où tu es, dit un chant qu'on chante parfois. Oh, prends-nous avec toi. Prends-nous avec toi dans ton règne de paix et de justice, où nous serons pleinement rassasiés. Amen.